Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
Le 3 février prochain sortira le film Chocolat du nom d'un célèbre clown de la Belle Époque. Franck Ferrand en profite aujourd'hui pour nous parler des clowns, du cirque et de l'univers de la piste. Bonjour Franck.
Bonjour Ombline, bonjour à tous. J'adore le cirque, moi vous savez, je suis ravi de faire cette émission avec trois invités de marque cet après-midi puisque j'ai le plaisir de recevoir le propriétaire du plus grand chapiteau du monde, le cirque Phénix, Alain Pacherie, qui va présider dès demain d'ailleurs au nouveau festival mondial du cirque de demain, un grand monsieur loyal. Véritable pilier de ce festival, Calixte de Nigremont, et au téléphone tout à l'heure, celui qui sans doute peut être considéré comme le plus grand clown de notre époque, David Laribel. En attendant, je vous propose de revivre la carrière du clown absolu, Grock.
Et tout à l'heure, à la fin de l'émission, vous répondrez à la question de Patrick, qui souhaite connaître l'origine du cirque itinérant.
Et ben voilà qui tombe bien, comme aurait dit Grock, sans blague.
Repin au cœur de l'histoire.
Franck Ferrand.
Hambourg, le 30 octobre 1954. Il est là, devant son miroir, dans sa loge. Il s'appelle Adrien Vétard, il a 74 ans. Et il faut l'imaginer avec précision, patiemment, se maquillant. Vous savez, le maquillage d'un clown, c'est une véritable transformation. Hein. C'est une mue d'une certaine manière. Il est en train de se transformer en celui que tout le monde attend. Sous l'immense chapiteau, le célèbre clown Grock, avec son crâne d'œuf, son costume beaucoup trop grand et ses mimiques finaudes. Le début du spectacle approche et, comme à chaque fois depuis le début de cette longue, très longue carrière, le trac est en train de s'emparer du vieil artiste. Seulement ce soir-là, l'appréhension est toute particulière, car la représentation qui s'annonce va être la dernière. Grock, le clown qui a fait rire plusieurs dizaines de millions de spectateurs à travers le monde entier, Grock s'apprête à tirer sa révérence. Il est temps de se diriger vers la piste, de laisser éclairer ce corps fatigué par la lumière si brute des projecteurs. Et au moment où les 4000 spectateurs aperçoivent la silhouette tellement célèbre à l'époque, c'est une ovation extraordinaire qui résonne sous le chapiteau. Et c'est parti pour une heure de spectacle, des pitreries, des acrobaties, des réparties qu'on connaît beaucoup déjà à l'époque. Mais tout est tellement bien réglé que ça provoque, quoi qu'il arrive, la même hilarité. C'est la même chose depuis 5 décennies maintenant. Les éclats de rire retentissent, la joie est sur tous les visages. Et déjà, c'est la fin. L'émotion saisit le public. Des larmes coulent sur les joues fardées du vieux clown. On peut dire qu'il est en train, là, de vivre un détachement, en quelque sorte. C'est la fin de cette carrière prodigieuse. Pourquoi ne pas dire de ce destin prodigieux ? Tout avait commencé, donc 74 ans plus tôt, le 10 janvier 1880, dans un joli village du Jura suisse qui s'appelle Loveres. Adrien Vétard, ou Vétac comme vous voudrez, naît dans une famille toute simple, toute modeste. Sa mère est une femme tendre, attentionnée. Son père est un homme aimable, plein de force, un touche-à-tout. On le voit tour à tour horloger et cafetier. Il lui est même arrivé de jouer les acrobates lui-même dans des cirques. Il faut dire que Grock a de qui tenir d'une certaine manière. Malheureusement, cette famille a une certaine propension à l'instabilité professionnelle et bien souvent, la situation financière des Vétac est très difficile et particulièrement précaire. Ces épisodes récurrents de pauvreté, des déménagements qui sont toujours dans de mauvaises conditions, tout ça va marquer le petit Adrien, évidemment. Est un enfant très remuant par ailleurs, plein de vie, plein d'exubérance. Il aime faire le pitre. Il ne rechigne pas à être le centre de l'attention. Par exemple, on va le voir un jour déclencher un tonnerre d'applaudissements dans le café paternel pour une séance de dégustation de spaghettis avec les pieds, s'il vous plaît. Donc ça doit, c'est une certaine acrobatie. C'est un coup à prendre. Peut-être grâce aux relations de son père, des relations que le papa avait à conserver dans le monde du cirque, Adrien va effectuer de petits séjours sous un chapiteau. Cet univers plein de magie, de fantaisie l'attire, le stimule. À cette époque, il s'initie par ailleurs à toutes sortes d'instruments de musique. Vous savez, le métier de clown, disait Charlie Chaplin, est fait de 20 métiers et ce sont ces 20 métiers qui font un artiste, c'est exactement ça. Il faut tout savoir faire, bien sûr. Et il faut être bon sur un fil, en tant que funambule, etc. Adrien grandit, et bien vite, il faut penser à son avenir. Alors bien sûr, dans un premier temps, papa avait songé à faire de lui un horloger. C'est ce qui était le plus raisonnable dans cette famille. Mais évidemment que ce n'était pas le destin d'Adrien, qui va multiplier les petits boulots d'aspirant artiste. On le voit traîner avec des gens dont il faut bien dire qu'ils ne sont pas toujours recommandables. D'ailleurs, il a des ennuis avec la justice pour un vol auquel il se trouve mêlé malgré lui, semble-t-il, et qui va tout de même lui valoir quelques jours de détention. Un changement d'air paraît nécessaire. Les parents décident de l'envoyer comme précepteur. Alors, je ne suis pas sûr que ce soit une très bonne idée. Chez un aristocrate en Hongrie, il a 17 ans à cette époque-là. Et c'est le début d'une toute nouvelle vie car Adrien se sent désormais libre. Une liberté pleine de promesses. Il est assez difficile de suivre son parcours, il faut bien le dire. Là, les historiens se grattent un peu la tête. Il racontera, une fois qu'il sera célèbre, il racontera toutes sortes d'histoires pas très crédibles pour expliquer cette période un peu difficile de sa vie. Toujours est-il qu'on va le retrouver à la caisse d'un cirque itinérant, à l'entrée d'un chapiteau qui est en train de faire une tournée en France. Il entend bien se faire remarquer, évidemment. Et son biographe, Laurent Dirksen, raconte « Bien entendu, notre aventurier n'en restera pas là. Entre les représentations, il va déployer tout son éventail d'audace et de talent, jongler, voltiger, imiter les artistes au gré des accessoires qu'ils ont laissés traîner sous le chapiteau. Ça finira bien. » Par ameuter la direction. Et en effet, on se dit qu'on devrait pouvoir faire quelque chose de ce jeune homme qui est plein de fougue et plein de talent. On apprend au même moment qu'un certain Brick, un clown marseillais, vient de se séparer de son partenaire qui s'appelait évidemment Brock. Brick et Brock. Hein. C'est l'opportunité à saisir. Adrien se glisse dans le costume de Brock. Il va juste changer le nom en Grock. Voilà comment ça naît, ce nom-là. Un nom, évidemment, qui va bientôt devenir célèbre et qui un jour figurera en lettres d'or sur les plus prestigieuses façades du monde.
Extrait de la bande originale du film Les Clowns, réalisé par Federico Fellini, une musique signée Nino Rota. On vous retrouve, Franck Ferrand, pour la suite de votre récit sur Adrien Vétac, devenu Grock.
Eh oui, alors ce Grock, disons-le clairement, n'a pas tout de suite connu un très grand succès. On le voit tourner en France, en Belgique, en Espagne. C'est un rôle un peu difficile qu'on lui fait jouer, il faut le dire. Laurent Dirksen le précise. Il faut bien reconnaître, dit-il, qu'en dépit de ses innombrables entrées clownesques avec Brick, le faciès entouré de barbe rousse, affublé d'un faux ventre, sous des falsards écossais et chemises bouffantes, Grock démontre des qualités, c'est vrai, mais dans l'indifférence générale, les facéties des deux compères laissent juste le temps aux artistes en coulisses de préparer les numéros suivants. En d'autres termes, ils font les bouche-trous. Nous en parlerons tout à l'heure avec Calix de Nigremont. C'est ce qu'on appelle des entrées au cirque. Hein. C'est très important parce que ça permet au spectacle d'acquérir une forme de fluidité. Mais c'est vrai que ça n'est pas très valorisant tant que le public ne s'arrête pas à ce que fait véritablement le clown. Et puis voilà qu'un coup de chance va tout changer. Grock est en tournée en Amérique latine. Il croise la route d'Antonet, qui est un clown alors très talentueux, qui justement à ce moment-là est en train de chercher un nouveau partenaire. Les deux artistes vont se découvrir très vite des affinités. Ils décident de travailler ensemble. Simplement, il faut que les choses soient claires. Antonet est le maître et Grock ne sera en quelque sorte que le disciple. Laurent Dirksen le souligne, Grock sera l'auguste déjanté, un peu simplet, Alors qu'Antonet, le clown blanc, incarne l'ordre, le bon sens, en quelque sorte toutes les qualités. La tradition de tel duo veut aussi que le clown, blanc soit le chef. De plus, ce chef-là n'aime pas spécialement le changement, d'où l'option de reprendre les gags de l'ex-partenaire et de les faire adopter et adapter par l'élève. Antonet et Grock n'en sont pas moins applaudis, très applaudis. Pour la première fois en 1907 à Marseille, ils vont poursuivre leur tournée avec pas mal de réussite. Et à Madrid, une aventure assez étonnante leur arrive. Et ça va beaucoup contribuer à leur notoriété en tant que duo. Ils sont en train de faire leur pitrerie habituelle. La reine d'Espagne est là personnellement dans le public. Elle est enceinte et elle rit tellement que l'accouchement se déclenche. Vous imaginez, évidemment, la presse va en faire des gorges chaudes. Les grimaces de Grock attirent jusqu'aux cigognes, commentera-t-on. Bien que le succès soit au rendez-vous, la relation entre Grock et son maître, si je puis dire, se détériore, il faut le dire assez vite d'ailleurs. C'est-à-dire que le disciple est tellement doué qu'il accepte difficilement de jouer en quelque sorte les utilités auprès d'Antonet. Ça se détériore, les relations vont de plus en plus mal. Grock entend adapter leur numéro au music-hall. On est dans la grande tradition, dans la grande époque, bien entendu, hein, au tout début du XXe siècle, de ce music-hall qui est en train de devenir le roi des spectacles, qui est plus prestigieux sans doute et surtout beaucoup plus rémunérateur que le cirque habituel. Et Antonet, lui, veut rester sous chapiteau, il veut rester sur la piste. Donc il y a vraiment une mésentente entre les deux partenaires et ça va les conduire à rompre à Londres en 1913. Qu'à cela ne tienne, Grock trouve un nouveau partenaire et va appliquer cette fois sans contrainte les changements audacieux qui lui tenaient à cœur. De nouveau Laurent Dirksen. Désormais, les rôles sont inversés. Le clown blanc suivra les directives de l'Auguste. À l'automne 1913 et en un temps record, il répète texte et musique en anglais sur le trajet de Londres, puis en danois, en allemand de Copenhague à Berlin et ainsi de suite sur des trajets de Hongrie, d'Autriche, de Russie, etc. Leur spectacle là est une grande réussite. Des ajustements, des petites trouvailles s'ajoutent de jour en jour, de soir en soir. Par exemple, son partenaire ne sera bientôt plus un clown mais un musicien à l'allure snob. Il y a une volonté très forte chez Grock d'aller vers le music-hall, et évidemment lui en rajoute beaucoup sur son apparence de plus en plus déguenillée. Le public applaudit à tout rompre. On est à l'époque de la Première Guerre mondiale, évidemment ça ne tombe pas bien. Le Suisse Grock ne risque pas d'être envoyé sur le front, il est Suisse. Il peut continuer ses activités, mais trouver un partenaire devient vraiment une chose de plus en plus difficile. Il réussit tout de même à imposer son numéro sur la scène de music-hall du prestigieux Coliseum de Londres, et c'est un triomphe extraordinaire. On peut parler à partir de là, à partir de 1915-16, du phénomène Grock. C'est à cette époque qu'il va recruter Max Van Emden, son partenaire, et va longtemps l'accompagner, et à son tour de devoir se fondre dans le rôle un peu ingrat de faire valoir. Eh oui, c'est comme ça. Maintenant, c'est Grock la vedette, bien entendu. C'est lui qui gagne beaucoup d'argent, qui a les contrats les plus étonnants, qui font beaucoup parler les journalistes. Il se lance dans la composition de très nombreuses musiques, car il se veut un musicien à part entière. On peut dire maintenant que Grock a réussi. D'ailleurs, il va aider ses proches. Et quelques années après la guerre, il se lance même dans la construction d'une luxueuse villa rococo sur la côte ligure. Ah, on peut dire que cette fois, on est bien loin du modeste enfant issu de son Jura suisse.
Vous écoutez Au cœur de l'histoire sur Europe 1 et n'hésitez pas à tout moment à réagir tout au long de l'émission. Nous envoyez vos messages, vos questions via la page Facebook de l'émission, par mail europe1.fr, via Twitter également celui de Franck Ferrand ou hashtag ACDH. Au cœur de l'histoire continue dans un instant et vous nous parlerez à nouveau, Franck Ferrand, du clown, du phénomène Grock.
L'histoire sur Europe 1, c'est avec Franck Ferrand. Franck Ferrand, 14h-15h sur Europe 1.
Au cœur d'une scène de musical, Franck Ferrand, vous nous racontez le destin couronné de succès du clown Grock.
Et oui, ce sont les années 20 qui vont vraiment, pour Grock, être les années de la splendeur. Il a la quarantaine à ce moment-là et on ne le voit que sur les plus grandes scènes du monde, à Londres, à Berlin, à Paris bien entendu. Alors, lorsqu'il joue en France, il parle français, lorsqu'il joue en Angleterre, il parle anglais, etc. Il parle je ne sais pas combien de langues. En tout cas, ce qui est extraordinaire, 6 me fait signe Alain Pacherie, il parle 6 langues, en tout cas il les parle pour le spectacle, et ses répliques en français sont restées connues. Vous savez, il y a des générations d'enfants qui disaient ça, qui connaissaient ça, c'était devenu une sorte de running gag, sans blague, toujours, et puis le fameux « pourquoi » qui évidemment procédait beaucoup du comique de répétition, parce que la première fois c'est plus ou moins drôle, mais la 30e, vous ne pouvez plus résister, surtout que tout ça vient dans une espèce de mécanique. Il y a une mécanique Grock. C'est ce qui va faire la spécificité incroyable de ce clown, beaucoup imité bien entendu, mais avec des imitateurs plus ou moins doués, il faut bien le dire, et beaucoup d'inimitié aussi. On est jaloux de son succès, de sa gloire. C'est Laurent Dirksen encore qui nous dit « Un soir au Coliseum, Grock ouvre comme d'habitude son piano et lui plaque une introduction vigoureuse. Une douleur aiguë le paralyse soudain, ses gants sont tout tachés de sang, 14 lames de rasoir ont été glissées sournoisement entre les touches de son clavier. » Et oui, il n'avait pas que des amis, ce monsieur. Et d'autant plus que, les années passant, des rumeurs se mettent à circuler sur le caractère un peu difficile du bonhomme. Le clown le plus célèbre du monde, comme on l'appelle, est, dit-on, désagréable avec ses partenaires. On le présente comme pingre, alors que par ailleurs, il a fait preuve, je crois, pendant sa vie, d'une incroyable générosité. Mais il a cette réputation. Et c'est vrai que sa deuxième femme, Inès, qu'il a épousée en 1923, a tendance à tenir les cordons de la bourse. Bon, ça fait des bruits qui ne sont pas sympathiques, ça bien entendu, mais est-ce qu'on ne peut pas dire que d'une certaine manière ça contribue à accroître encore la réputation du personnage, puisque on dit du mal de lui, c'est vrai, mais dès qu'il apparaît en public, les gens sont pliés de rire, l'acclament, l'applaudissent. Et puis il y a chez Grock, au-delà de cette volonté d'aller vers le musical, il reviendra au cirque, il y reviendra constamment toute sa vie, il y a aussi la volonté d'apparaître comme un clown peut-être plus fin qu'un certain nombre de ses contemporains, un clown intellectuel, comme disent ses amis. Il s'en défend d'ailleurs, je le cite. « Je veux, pour une fois, lever ma visière, dit-il. Ni l'art, ni la philosophie ne m'intéressent. Je ne suis pas un intellectuel. Tout ce qu'on dit de moi dans ce sens est bien gentil, mais pas vrai. De la réclame que mes aimables amis et protecteurs propagent sans penser à mal. » Dès les années 20, donc, Grock commence à penser à sa retraite, mais il faut vous dire qu'il y a cette villa en Italie, absolument invraisemblable. Il y a des projets de films, car il ne cessera de vouloir être filmé dans ses grands numéros. Tout ça est dur, évidemment. Tout ça réclame beaucoup de travail. Il doit se remettre constamment sur la route, poursuivre ses spectacles à travers l'Europe, et l'engouement qu'il suscite, disons-le, est tout particulièrement fort en Allemagne. Or, on est maintenant dans une Allemagne difficile. On est en pleine période hitlérienne. Or, il se trouve que son numéro plaît tout particulièrement à un certain Adolf Hitler. À la fin d'un spectacle, Hitler vient donc rendre visite au clown dans les coulisses. « Monsieur Grock, lui dit-il, c'est aujourd'hui la 13e fois que je vous vois. Vous êtes le seul artiste qui ne me fatigue pas. Je pourrais même vous voir chaque jour. » Vous avouez qu'il y a des publicités dont on se passerait bien, évidemment, parce que vous pouvez faire confiance à tous les ennemis de Grock pour rappeler en toutes circonstances ses compliments du chancelier du Reich, évidemment. C'est vrai d'ailleurs que pendant toute la période du nazisme, Grock a une attitude, on peut pas dire qu'il ait été lui-même nazi, ça ce serait totalement faux, mais il est dans une indifférence, pour ne pas dire parfois sans doute dans une complaisance assez difficile. L'ambiguïté de ses rapports avec l'Allemagne, elle va d'ailleurs évidemment ressurgir fortement pendant une tournée en Suisse en 1945. On évoque dans la presse ses voyages à travers le Reich pour jouer dans les hôpitaux pendant la guerre, on reparle d'une photo qu'Hitler lui avait dédicacée dans des termes plus qu'élogieux. Le clown a toujours refusé d'entrer dans la polémique, mais il est évident que ça va ternir un peu son image. C'est une après-guerre difficile pour lui qui avait espéré faire ses vrais adieux et qui doit longtemps les reporter constamment parce qu'il voit bien que le climat n'est pas favorable et que la presse ne le suivra pas, tout simplement. Et en même temps, sa santé décline. Alors les spectacles sont toujours aussi nombreux, toujours aussi triomphaux, il faut le dire. Mais Grock n'est pas entièrement satisfait. Il va se lancer dans le tournage d'un nouveau film, dont le succès est plus que relatif. Pour tout vous dire, ce film, je l'ai vu, est un peu décevant parce que je crois que c'est très difficile de filmer un clown, même très grand clown. Vous savez, il y a quelque chose qui se fait dans l'atmosphère même de la salle. Il y a une onde, en quelque sorte, qui ne traverse pas l'écran d'une certaine manière. Et puis, ça va être l'aventure du Circus Grock avec la propre troupe de Grock et son chapiteau itinérant. Vous savez que c'est Guy Descartes qui avait écrit un très beau livre, Le Château du Clown, où il s'inspire en partie, s'inspire de plusieurs grands clowns, mais notamment de Grock, et il montre ce clown qui s'embourgeoise en quelque sorte et qui finit par être le propriétaire de son propre grand cirque. Tout ça est assez amusant. Alors, plus le temps passe et plus on oublie les petits problèmes de la guerre, si je puis dire, et c'est de nouveau des hurrahs, des acclamations, et peu à peu, vous savez ce que c'est que de vieillir sur scène, peu à peu, Grock devient une légende vivante, et les gens viennent au moins autant à ces spectacles pour rire que pour dire j'ai vu Grock, j'y étais d'une certaine manière, je l'ai entendu, je l'ai vu, j'ai ri à ses pitreries, à ses finesses, à ses extraordinaires. La gloire néanmoins n'est plus tout à fait la même que dans les années 20, hein, bien entendu. On peut dire que vivre pour Grock à partir de 1954, après ses adieux que je vous ai racontés tout à l'heure, sans son costume de clown, va être une chose très difficile. Il n'est plus que monsieur Adrien Vétard, citoyen suisse à la retraite, qui vit en plus en Italie. Alors il y a des nostalgiques qui viennent lui rendre visite, qui veulent le toucher, si je puis dire. Il y a des journalistes, bien entendu, qui font des interviews très intéressantes. Les interviews de Grock sont toujours très fines et très intéressantes, mais le monde a changé, évidemment, on est passé à autre chose, et lorsqu'il meurt le 14 juillet 1959, après, donc il a vécu 79 ans, on peut dire que Grock est un peu passé de mode. Reste néanmoins un héritage, un sens du spectacle, une poésie très grande, et surtout un personnage emblématique de l'histoire du cirque. Pierre Robert Lévy le souligne, je cite, « Le sourire extasié de Grock, son visage épanoui, éclairé par un crâne bien lisse, sa candeur mêlée de finasserie, tout cela emportait d'emblée le public. Ce numéro célèbre se perfectionna d'année en année sans qu'on puisse pour autant parler d'un réel renouvellement. Rares sont les excentriques musicaux qui furent aussi brillants dans l'interprétation de leur répertoire. Ce merveilleux amuseur suisse fut seul à conjuguer dans sa présentation l'acrobatie et la jonglerie, la danse et la fantaisie musicale, le tout lié par une trame de comédie qui donne à l'ensemble une unité originale, un numéro inégalé, un chef-d'œuvre. Bonjour Alain Pachery, bonjour Calixte de Nigremont. Allons reparler avec vous, bien sûr, de Grock, d'autres clowns. Nous allons en profiter pour nous plonger dans cette sorte de bain de jouvence qu'est constamment l'univers du cirque.
Europe 1, au cœur de l'histoire.
Franck Ferrand, 14h-15h sur Europe 1.
Les clowns cet après-midi sont au cœur de l'histoire. Vous recevez Franck Ferrand, le maître de cérémonie Calixte de Nigremont, monsieur Loyal du Festival Mondial du Cirque de demain, et Alain Pachery, président fondateur du Cirque Phoenix, président de l'Académie des Arts du Cirque Fratellini et président du Festival Mondial du Cirque de demain.
Et ces messieurs sont venus avec un petit cadeau qui s'appelle le Petit Auguste Alphabétique d'Yves Dagenais avec une préface de Pascal Jacob. C'est le premier dictionnaire universel des clowns augustes, excentriques et autres comiques. Et à la lettre G, et GR si je puis dire, comme Grock, voilà ce que je lis. C'est une citation assez étonnante de Grock. « Je ne suis pas capable de faire le bouffon le soir et d'être le jour le bon bourgeois froid et indifférent, j'ai toujours pensé que si l'on est clown, il faut l'être en tout et partout, Calixte. »
Il y a une manière de vocation. Et c'est vrai que quand vous évoquiez la carrière de Grock, et quand il niait par exemple ce côté intellectuel ou cérébral qu'on lui a collé très longtemps, c'était ça, c'est-à-dire que c'était l'idée de dire notre mission est de faire rire, sa mission était de faire rire. Et on l'a pas dit, mais à une époque où il n'y a pas de radio, pas de télé. Voilà. C'est l'équivalent d'un Jamel Debbouze aujourd'hui ou d'un Kev Adams, Grock, dans le monde du
clown. Alors, il jouait d'ailleurs beaucoup sur cette voix très particulière. Il chantait, il jouait beaucoup de musique, mais il faisait de l'acrobatie, il faisait de la jonglerie. C'était il était très polyvalent d'une certaine manière, Alain Pacherie.
Il jouait de 24 instruments différents.
Incroyable.
Et il a inventé le plus petit violon du monde dont il jouait.
C'était minuscule.
Minuscule, minuscule, et dont il sortait des sons absolument formidables.
Oui, parce qu'il jouait vraiment,
Vraiment.
C'est tout à fait.
Et puis, aussi, Grock, en 1914, il a sauvé l'Olympia.
Ah oui.
Qui était au bord de la banqueroute.
Racontez-nous ça.
Il est venu faire un spectacle à Paris, puisque l'Olympia a été un musical, un cinéma, et de nouveau un musical avec Cocatrix. Mais en 1914, au bord de la banqueroute, l'Olympia, Grock vient et il fait un tabac et il sauve l'Olympia.
Ah, c'est formidable. Ça, voilà une anecdote. Alors, on va l'écouter juste quelques instants, si vous voulez bien, dans une tyrolienne, ce Grock. Et puis, nous revenons aux autres clowns avec vous dans un instant. Voici Grock. Päivällä voit stuumit mihu, holdi, 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 jo rei on tarikin ko, holdi, joro, holdi, 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 holdi. Et voilà, là on peut dire que tout Grock est dans les quelques, dans la dernière mesure, hein, dans les dernières secondes, cette espèce de ça dégénère d'un seul coup en fait. C'est ça le principe même de son grand numéro.
Hein. Ben c'est de surprendre en permanence,
c'est ça.
Vous savez. Et puis il a inventé des choses tellement simples mais qui ont fonctionné tellement magnifiquement. Quand il se met au piano, au lieu de déplacer son siège pour s'approcher du piano, il se lève et il va pousser le piano vers le siège. Ce sont des petites choses mais qui fonctionnent toujours.
Mais oui, bien entendu, c'est universel. C'est peut-être ça l'art du clown.
C'est ça l'art du clown. C'est ce qui distingue le clown du comique. Le comique, il s'exprime avec des codes qui sont compréhensibles uniquement dans un ou deux langues.
Et d'ailleurs, le comique essaie d'être le plus proche de l'esprit de son temps. C'est tout l'inverse en fait.
Oui, c'est exactement ça. Et la preuve, c'est que tous les clowns internationaux jouent partout dans le monde. C'est-à-dire qu'on a cité Grock, on aurait pu parler de Nicouline, on aurait pu parler de ceux qui actuellement font le monde du clown. On aura David tout à l'heure au téléphone. Mais
on aurait pu parler de Footit et Chocolat.
Bien
entendu,
absolument.
Un grand duo de la Belle Époque en France. Alors, on va beaucoup parler du clown Chocolat dans les temps qui viennent, puisque là, au début du mois de février, sort un film, on peut dire que vous n'êtes pas tout à fait étranger à la résurrection de Chocolat, Alain Pacherie.
Non, j'ai pas un rôle aussi important que ça. Non, tout simplement, j'ai découvert le clown Chocolat à travers un livre qu'a écrit un Français, qui a écrit une pièce de théâtre que j'ai été voir, et j'ai été bouleversé par l'histoire de cet esclave qui est devenu un immense clown. Ça a été le premier artiste noir sur une scène française.
Il a été repéré comme ça sur un quai.
Sur un quai, par hasard. par un clown anglais. Mm-hmm. Qui faisait une tournée en France, qui avait besoin d'un partenaire. Et puis, ça a été un duo qui ont fait un triomphe. Ils ont été des stars, vraiment des stars.
George Footit, l'autre clown.
Exactement.
Alors, il était anglais, lui. Il était tout blanc et il en rajoutait puisqu'il se grimait en blanc. Et évidemment, Chocolat, lui, était noir. Avec, évidemment, je pense que ça ne ferait plus rire du tout aujourd'hui, bien sûr, puisqu'il y avait, disons clairement, un racisme sous-jacent à leur numéro. Hein.
Ils ont inventé le clown blanc et l'Auguste.
Oui.
Et l'Auguste sur qui on frappe toujours.
C'est ça.
Voilà,
sauf que là, l'Auguste était noir, en l'occurrence.
L'Auguste était noir.
Vous avez donc mis cet Auguste, vous l'avez tiré des limbes, si je puis dire, Alain Pacherie, dans votre spectacle Cirque Africa. Il faut expliquer
ça.
Ouais.
Cirque Africa en 2012, on a rendu hommage au clown Chocolat à chaque représentation. On a fait plus de 400 000 spectateurs qui ont donc découvert Chocolat. Et puis ensuite, il y a eu le film qui sort mercredi et nous allons au Festival Mondial du Cirque de demain exposer dans le foyer les costumes du film. La production a eu l'extrême gentillesse de nous les prêter pour le festival. Et on pourra découvrir en avant-première, puisque le film sort mercredi prochain, les costumes du film.
Je sais que la maire de Paris vient d'inaugurer une plaque à la mémoire de ces deux clowns, en fait.
Tout à fait, rue Saint-Honoré, à l'hôtel Mandarin, il y avait le Cirque Moderne, et c'est là où Footit et Chocolat ont triomphé à l'époque.
Ils ont triomphé aussi, évidemment, dans le grand cirque des clowns, qui était Medrano, à cette époque. Alors que Medrano, ça se trouve sur le boulevard de Rochechouart, hein, dans le nord de Paris.
Fait.
Aujourd'hui, c'est devenu
un immeuble. Le Medrano.
Oui, voilà.
En souvenir.
Et ce cirque-là a été vraiment le lieu où tous les grands clowns du début du XXe siècle ont fait leur début, Calixte.
Oui, il y a eu cette plaque tournante. Quand Paris était cette capitale du plaisir qu'on évoque toujours, il y avait ce creuset qui permettait à tous les clowns de venir récolter tout ce qui était dans l'air du temps et puis de le resservir après en l'ayant passé au crible. Et effectivement, on a vu des générations entières se former là. C'est l'époque des frères Fratellini.
Et voilà, le trio Fratellini, voilà,
qui ont inventé le nez rouge. C'est les premiers qui ont mis un nez rouge, qui existe toujours maintenant, c'est l'image du clown.
Oui, maintenant, on ne pourrait presque plus imaginer un Auguste sans son nez rouge, quasiment.
Tous les Augustes ont le nez rouge, et c'est Fratellini qui l'ont inventé.
Se sont codifiés tous les codes du clown qu'on va retrouver dans les années qui vont suivre.
Il faut dire que le trio Fratellini était lui aussi un peu à la jonction de la piste et de la scène. Hein. On allait beaucoup vers le cabaret, vers le musical à cette époque, bien entendu. Hein.
Oui, il y avait beaucoup de cirque à Paris, il y avait beaucoup de musical, donc il y avait énormément de travail pour tous ces artistes. Et puis les clowns, ils ne sont pas obligés d'être sur une piste ronde de 13 mètres, puisque les 13 mètres, c'est pour les chevaux.
Et voilà, oui. Ce qui est drôle, c'est qu'on le retrouve dans la pratique qu'ont les clowns contemporains aujourd'hui, qui sont moins souvent au cirque et beaucoup plus souvent au théâtre.
Oui, exactement. C'est vrai d'ailleurs, hein. On les voit dans toutes sortes de... Ils se présentent dans toutes sortes de cadres, pas forcément... Et d'ailleurs, de moins en moins, entre nous soit dit, sur une piste de cirque.
C'est exactement ce que j'allais dire, c'est que les clowns contemporains qu'on trouve aujourd'hui en tournée, les Bonaventure Gacon, les Ludor Citric, les Champion Albiro, les Matapest, les Emma Clown, ils sont dans les théâtres. Ils sont beaucoup moins au cirque.
Oui, oui. Et le cirque a tendance, depuis qu'il se scénarise, c'est-à-dire depuis 15 ou 20 ans à peu près, il a tendance à se passer un peu des clowns d'ailleurs.
Il suit le mouvement parallèle du cirque contemporain en fait.
C'est ça, voilà, exactement. Qui devient plutôt une sorte de ballet où on raconte une histoire. Ce que vous faites avec votre petit dragon.
Exactement.
On en dira un mot du petit dragon tout à l'heure, Alain Pacherie. Ai-je le droit de rappeler que vous êtes le président de l'Académie Fratellini, justement?
Mais bien volontiers.
Alors, quel est l'esprit Fratellini? Qu'est-ce que
vous
c'est
savez,
finalement?
Annie Fratellini et Pierre Etex ont créé la première école de cirque
Pierre
en
Etex,
Europe.
Faut pas l'oublier,
non, c'est
vrai.
Eux deux. Ils avaient même un numéro de clown pendant un moment qui tournait et ils ont monté la première école de cirque en Europe. Il n'y avait pas d'école de cirque en Europe de l'Ouest. Il y en avait en Europe de l'Est, mais pas en Europe de l'Ouest. Et c'est les premiers qui ont inventé le nouveau cirque parce qu'ils ont commencé à mettre des instruments de musique classique pour accompagner les numéros. Ils ont commencé à scénariser un peu les spectacles. C'est comme ça que le nouveau cirque est né. C'est à eux qu'on le doit. Et depuis, grâce au nouveau cirque, parce qu'il y a eu un moment où le cirque traditionnel a eu de grandes difficultés.
Et maintenant, vivent bien.
Les deux vivent très bien. Oui, il y a trois formes de cirque. Le cirque traditionnel, le cirque d'auteur, et puis le cirque de divertissement.
On peut dire que les clowns appartiennent à tout cela parce que ce sont des êtres protéiformes, bourrés de talents multiples et qui sont capables d'à peu près tout faire. Et d'ailleurs, quand on a des entrées, ce qu'on appelle les entrées, c'est les différents numéros récurrents d'un clown tout au cours d'un spectacle. Ce qui amuse le public, c'est de voir, il a fait de la jonglerie, il a joué d'un instrument, il a vocalisé, il a fait de l'acrobatie, etc. Que va-t-il faire maintenant? C'est ça.
C'est lié au fait que beaucoup de clowns sont d'anciens artistes recyclés, peut-on dire. C'est-à-dire qu'il arrive un moment donné où l'âge ne vous permet plus d'être sur un trapèze, donc vous transformez votre présence au cirque, parce qu'au cirque on a une fidélité, en numéro clownesque.
Vous avez dit un mot de Nicouline, peut-être un mot, peut-être.
Il y a peu de clowns qui ont une statue dans leur ville. Nicouline a sa statue à Moscou. C'est on a tout dit.
Je ne sais pas si David Larrible a sa statue à New York, mais il pourrait, parce qu'il a été 18 ans chez Ring Ring Bros. And Barnum and Bailey, donc c'est le plus grand cirque du monde.
On cotise déjà pour construire une statue de bronze en hommage à David.
Ça tombe bien, nous l'avons en ligne et nous le prenons au téléphone dans un instant.
L'histoire sur Europe 1, c'est avec Franck Ferrand. Franck Ferrand, 14h, 15h sur Europe 1.
Il y a de la place pour tous, et pas la peine qu'on se pousse. Vous verrez sans musique un phénomène unique, un homme qui se sent devant son ombre poltron.
Le cirque à Caderousse, composé par Michel Legrand pour la comédie musicale Monte Cristo, sur une piste de cirque où une scène de musical, les clowns sont au cœur de l'histoire. Vous recevez Franck Ferrand, le président fondateur du Cirque Phoenix, président du Festival Mondial du Cirque de Demain également, Alain Pacherie, le monsieur loyal du Festival Mondial du Cirque de Demain, Calixte de Nigremont, et nous avons en ligne le clown David Larrible.
Et oui, il est au Cirque d'hiver Bouglione dans le superbe spectacle Rire jusqu'au 6 mars, et puis il va commencé une tournée en Suisse avec le cirque CNI. Et puis surtout, il est en train de préparer une pièce de théâtre qui s'appelle Le Clown des Clowns. Bonjour David Laribel.
Oui, bonjour à vous, bonjour à tous. Je suis content que vous m'avez appelé là.
Ben oui, parce que il ne manquait plus que vous, j'allais dire, dans cette galerie de portraits de clowns. Vous vous inspirez vous-même des clowns du passé, David Laribel, dans vos numéros?
Bien sûr, bien sûr. C'est très important. C'est très important. C'est la première chose que je conseille à les jeunes clowns quand ils me disent qu'est-ce qu'on devrait faire. Je dis étudier les clowns du passé parce que si tu connais pas ton passé, tu peux pas connaître ton futur. C'est comme ça.
Quels ont été vos maîtres, si je puis dire, ou vos inspirations, vos sources d'inspiration à vous?
Ah, il y en a eu tellement, mais une surtout, c'était un clown que c'était pas un clown de cirque. C'était un clown de films.
Et
c'était
oui.
Monsieur Charlie Chaplin. Pour moi, c'est la référence la plus grande. Mais après, il y a eu des clowns fantastiques qui m'ont inspiré quand j'étais petit. Los Hermanos Tonetti, Charlie Rivel, Oleg Popov, et bien sûr, Nicoline, que j'ai vu seulement en vidéo, et les Rodillata, les Rastelli, Toto Chabri, il y en a tellement.
J'ai eu la chance de vous voir plusieurs fois, évidemment, David Laribel, notamment chez Roncalli en Allemagne, et l'autre jour encore le très beau spectacle du cirque d'hiver Bouglione, et j'admire à chaque fois l'incroyable spontanéité de votre art, c'est-à-dire que vous réagissez directement aux mimiques du public, aux réactions de la salle. En fait, ça n'est pas écrit à l'avance, tout ça. On a l'impression que vous inventez au fur et à mesure.
le clown, il travaille avec le système de la commedia dell'arte.
C'était
une forme de théâtre très populaire en Italie, dans laquelle il s'est inspiré aussi la comédie française, bien sûr, et Molière. Mais c'était une forme de théâtre où il n'y avait pas vraiment de script défini avec il y avait des lignes, il y avait des situations, il y avait des petites histoires avec un commence, des points milieu et une fin. Et entre ces points, c'était l'improvisation la plus pure.
Et vous savez, ce qui m'a frappé encore l'autre jour, c'est de voir que dans le public, vous suscitez non seulement le rire. Bon, ça, j'allais dire, c'est un peu dans votre contrat, ça. Si vous ne faisiez pas rire, je pense que ce serait un problème, David Laribel. Mais en même temps, vous suscitez, c'est beaucoup plus fort, vous suscitez l'émotion et vous jouez. On a l'impression que vous la sculptez, cette émotion. Ça, c'est quand même... là encore, c'est un héritage ou c'est spontané? Vous avez ça en vous?
J'ai cité Chaplin.
Et voilà,
tout à l'heure. Et Chaplin, c'est ça qui nous a appris, qu'un clown, il doit jouer et passer de la comédie à la tragédie en quelques instants.
C'est ça.
Et moi, je crois que ma définition du clown, c'est rien d'autre qu'un jongleur d'émotions. C'est ça qu'il devrait faire un clown. Il devrait jongler avec l'émotion des publics. Et des fois, il me demande, David, qu'est-ce que tu veux que le public il se ramène à la maison après ton spectacle? Je dis, chacun, il doit se ramener qu'est-ce qu'il a plus besoin. Moi, qu'est-ce que je fais? Je me vide mes poches de toutes les choses que j'ai, de mes émotions, mon talent, si je l'ai, et ma préparation, ma technique, et je mets tout au service du spectacle. Et après, le public, il ramène à la maison qu'est-ce qu'il a plus aimé ou qu'est-ce qu'il a plus besoin.
Eh oui, c'est la fameuse catharsis propre à tous les spectacles. Merci infiniment, David Laribel. Je rappelle à nos auditeurs que vous êtes jusqu'au 6 mars prochain sur la piste du cirque d'hiver Bouglione, une salle
Une piste magnifique. Et le cirque d'hiver pour un artiste de cirque, c'est comme la Scala di Milano pour un chanteur d'opéra ou comme l'Opéra de Paris pour un danseur ou une danseuse. C'est un temple et je suis très content d'avoir fait ce spectacle qui marche très bien, qui a beaucoup de succès. Et vraiment, je dois dire que les Bouglions, ils font un travail extraordinaire chaque année.
C'est vrai. Merci beaucoup, David Laribel, d'avoir accepté de nous parler pendant quelques minutes comme ça. C'est aujourd'hui, on peut dire que l'art de David Laribel, le Calix de Nigaumont, c'est l'art du clown porté à son sommet. Là. Il est l'héritier de toute cette grande tradition.
C'est étonnant d'imaginer qu'on est au début du XXIe siècle et que le clown reste encore la référence. Et alors, moi, j'aime beaucoup cette expression quand on travaille sur le clown. Les professeurs d'art clownesque vous disent qu'il faut chercher son clown. C'est-à-dire qu'en théorie, chacun a en soi un clown qu'il faut développer, et David l'a merveilleusement alors, développé.
Il a parlé, il a cité un certain nombre de personnes. Charlie Rivel, j'ai entendu, évidemment.
Oui, il y a tellement.
Alain Pacherie.
C'est drôle d'ailleurs, parce que dans le cirque, c'est essentiellement les numéros de clowns dont on se souvient.
Peut-être.
Il y a des quantités.
Pas seulement quand même.
Beaucoup. Ouais. Qu'est-ce qu'on pourrait citer comme autre artiste, comme autre discipline? À part peut-être le trapèze, Léopold.
Oui, c'est
Léonard,
oui,
pardon, Léonard,
Léonard, oui.
Voilà, peut-être le trapèze.
Puis quand même la haute école, la cavalerie, école, oui, mais, quand même.
Oui, celui qui a inventé le cirque.
Oui, voilà, bien sûr.
Mais vous voyez, par rapport au nombre de clowns célèbres, beaucoup moins quand même.
Il y a des...
Et puis, pour David, je voudrais juste ajouter que c'est quand même la sixième génération d'artistes.
Extraordinaire, hein, c'est vrai.
Oui. Donc c'est vraiment dans les gènes. Hein.
Oui,
c'est un excellent clown, sixième génération.
Il est tombé dans la marmite quand il était petit.
Tout petit, et puis originaire d'un village de France, la Rible,
oui.
Le village de France.
Alors il est italien, il a fait sa carrière aux États-Unis, chez Barnum, et puis évidemment maintenant dans le monde, puisque je ne pense pas trahir un grand secret en disant que les plus grands chefs d'État de la planète l'invitent dès qu'il y a une soirée, etc. Oui. Enfin, c'est très extraordinaire sa carrière, bien entendu.
Et Nicoline, nous avons un descendant dans le jury du festival.
Et oui, alors justement, ce festival mondial du cirque de demain, je crois que nos auditeurs savent à quel point j'y suis attaché, puisque j'ai assisté à plus de 20, même je crois qu'on doit être à la 22e.
Le festival
session.
Est très attaché aussi, François.
Oh, c'est très gentil, oui, c'est très gentil. Mais là, c'est le 37e que vous allez nous proposer. Avec quelle nouveauté, si je puis dire? Qu'est-ce que Calixte va nous sortir là, de son chapeau dans les jours qui viennent,
Calixte,
Alain?
On ne sait jamais ce qu'il va sortir, Calixte.
Je ne sais pas moi-même. Comment voulez-vous que le président le sache?
Même pas. Et franchement, Calixte, je le vois à toutes les représentations, c'est jamais deux fois la même chose.
Non,
c'est
vrai,
spectacle à lui tout seul.
C'est
vraiment.
Vrai.
Je ne vais pas dire trop de compliments parce qu'il va rougir.
Non, pas trop parce que je vais plus.
C'est vraiment.
Il va souffrir.
Qui a réussi, intrinsèquement maintenant, il est lié au festival. Vraiment,
vrai, oui,
il a réussi à développer ça avec le public.
Il faut citer Dominique Mauclerc qui avait été à l'origine, bien sûr.
Il a créé, il y a 37 ans, il y a 39 ans.
Alors,
deux
le principe, c'est d'avoir de très jeunes artistes qui viennent du monde entier, qui présentent des numéros à couper le souffle.
Ça s'appelle Festival Mondial du Cirque de Demain.
Demain, et voilà. Hein.
Donc cette année, nous avons 120 artistes, des délégations très importantes. Nous avons 16 pays en compétition. Nous avons pour la première fois le Kirghizistan qui participe.
Alors, ça va être facile à dire, ça.
Hein. De contorsion.
Oui, les Kirghizes et le Kirghizistan. Les Kirghizistan, voilà. Le Kirghiz.
Il y a eu plus de 400 candidatures pour 24 numéros retenus. Donc, c'est vraiment des numéros tous exceptionnels. Dans la salle, il y a le monde entier du cirque. Les artistes repartent tous avec des contrats. Notre record, ça a été 10 ans de contrat pour un artiste au festival. Ça a été formidable. Bien sûr, c'est un moment extrêmement important dans la carrière d'un artiste de cirque. C'est le plus grand festival de cirque du monde pour les jeunes artistes.
Voilà,
il faut avoir moins de 25 ans et n'avoir jamais participé à aucun autre festival.
Il y a deux très grands festivals qui ont lieu dans le monde, on va dire. C'est évidemment le Festival International du Cirque de Monte-Carlo qui vient en quelque sorte récompenser les carrières déjà faites ou en
Exactement.
Cours d'accomplissement. Et puis il y a le Festival Mondial du Cirque de Demain qui est chez vous au Cirque Phoenix et où l'on voit les artistes qu'on applaudira précisément demain et après-demain. Certains sont très jeunes, hein. C'est assez étonnant.
Cette année, c'est 17 ans.
Ah oui, alors cette année, c'est un peu moins jeune. Oui. Il y a eu des années où on avait des enfants sur scène. C'est de moins en moins sur la piste.
Le festival de demain était doublé du festival de l'avenir.
Ah oui, alors là,
et l'avenir, c'était pour les jeunes de moins de 14 ans. Mais maintenant, nous nous concentrons sur le Festival Mondial du Cirque de Demain.
Alors, vous êtes prêts, j'imagine, Calixte de Nigremont. Vous les connaissez tous déjà très bien. Vous avez vu les répétitions.
Bien sûr, ça va être somptueux. C'est vraiment, c'est les Jeux Olympiques. En fait, la comparaison la plus juste, c'est ça.
C'est-à-dire d'ailleurs, il y a le défilé de la parade des nations avec tous les drapeaux.
La parade des drapeaux, ils sont tous en ouverture du spectacle et ils viennent vraiment jouer. Alors, leur vie est un peu excessive, mais au moins leur carrière. Et ce matin, on a quitté les répétitions, j'y retourne juste derrière, mais on avait des artistes qui avait tellement la pression qu'il y en a un ce matin, on a failli le perdre. Il était au bord de l'hypoglycémie, il a fallu le rafraîchir parce qu'il n'arrivait plus à répéter. Donc il y a vraiment une pression, il faut les mettre à l'aise, les décontracter.
Et un public, voilà. Pardon d'insister là-dessus, mais je trouve que le public est d'un enthousiasme qu'on ne peut trouver quasiment à ma connaissance dans aucun spectacle. C'est-à-dire que les gens sont chauffés à blanc.
On est assez proche du stade de foot, un soir de finale. Parce que c'est vraiment un chaudron, ce Cirque Phoenix pendant le festival.
Et ça commence demain donc.
Ça commence demain soir.
Demain soir, vendredi, samedi. samedi et dimanche. Voilà, merci beaucoup. On y sera, en tout cas dimanche. Et alors, bien sûr, il faut citer le spectacle qui vient de faire toute la saison sous ce très grand chapiteau phénix à la Pacherie. Entre parenthèses, un chapiteau sans aucune colonne, sans aucun pilier,
sans aucun mât. Sans aucun mât, il est suspendu par l'extérieur, il y a une visibilité totale à 360 degrés.
Gigantesque chapiteau. Et alors là, vous avez donné le petit dragon qui part en tournée maintenant.
Qui est en tournée.
Ça, c'est du cirque chinois, c'est encore autre chose.
Exactement, c'est encore une autre discipline. Les Chinois ont énormément participé au festival. Plus de 450 artistes chinois ont participé au festival et ont obtenu 37 médailles d'or.
Eh bien, écoutez, ça donne envie. Vous allez faire combien de villes, là?
Là, on fait 30 villes en France, Suisse et Belgique. Et on a fait...
Avec des moines Shaolin, faut dire.
Alors, si vous voulez, dans mes spectacles, je cherche toujours à apporter quelque chose de nouveau d'une saison sur l'autre. Et là, j'ai eu l'idée de mélanger les moines Shaolin à l'intérieur du spectacle pour raconter l'histoire de ce petit dragon.
Ce petit dragon qui est donc un futur lama, si je puis dire. Comment est-ce qu'on pourrait dire Enfin bon, je laisse aux auditeurs le soin de découvrir. Non, c'est vrai, pardon. Je viens presque de commettre une gaffe là, à l'instant. Et puis bien sûr, on va voir à partir du 3 février, je sais que vous teniez à ce qu'on le dise, Omblin, parce que vous me posez la question depuis le début de l'émission. dont Europe 1 est partenaire, ce film Chocolat, qui retrace donc l'histoire absolument inouïe, un film de Roche Dizem, avec Omar Sy, bien entendu, dans le rôle de Chocolat, et James Thierry dans celui de Footit, un film qui retrace la vie extraordinaire de ce Chocolat, qui a été...
James Thierry étant le petit-fils de Charlie Chaplin,
en plus,
dont on parlait tout à l'heure.
C'est quand même pas mal, tout ça, on a envie de dire, c'est une grande famille, n'est-ce pas, bien entendu. Une exposition qui s'appelle On l'appelait Chocolat sur les traces d'un artiste sans nom a lieu à la Maison des Métallos du 3 au 28 février. Voilà pour compléter ce qui devient quasiment une encyclopédie du clown. Merci beaucoup, messieurs, d'être venus nous faire partager votre passion qui est un peu la nôtre, bien sûr.
Vous restez avec nous, on vous retrouve dans un instant sur Europe 1 et vous répondrez, Franck Ferrand, à la question de Patrick sur l'origine du cirque itinérant. À tout de suite.
Europe 1, au cœur de l'histoire. Europe 1, au cœur de l'histoire.
Retour aux origines.
Dans l'univers fabuleux du cirque, cet après-midi, Franck Ferrand vous répondait à la question de Patrick qui, via la page Facebook de l'émission, s'interroge précisément sur l'origine du cirque itinérant.
Alors, vous savez que je ne vais pas revenir sur les origines antiques du cirque, bien entendu, ni sur tous les spectacles qui, au Moyen-Âge, mettaient en scène des acrobates, des mimes et des bouffons, etc. Il y avait déjà, avec les tréteaux de foire, la notion d'itinérance, d'ailleurs. Les spectacles étaient en partie ambulants. Mais ce que nous appelons le cirque, au sens actuel, au sens noble, ça naît en Angleterre, bien sûr, au XVIIIe siècle. C'est en 1768 que l'anglais Philip Astley, qui est un écuyer au départ, va fonder le premier cirque moderne, avec sa piste, c'est les 13,50 mètres, c'est la chanvrière, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, évidemment. Et puis, dès 1779, un amphithéâtre stable construit en bois. Et n'oubliez pas que, pendant très longtemps, les cirques étaient stables. Et nous avions à Paris, on en parlait tout à l'heure, le cirque d'hiver, le cirque d'été, le nouveau cirque, etc. qui étaient le cirque Medrano, tout ça c'était des cirques stables, c'était des salles de spectacle. Les cirques ne sont donc pas encore ambulants. Le premier qui va les faire bouger, si je puis dire, comme par hasard, c'est un Américain, ou plus exactement, c'est aux États-Unis que ça se passe. C'est Phineas Taylor Barnum qui va fonder le premier grand cirque itinérant avec William Coop. Ça s'appelle le P.T. Barnum's Grand Traveling Museum Menagerie Circus and Hippodrome. Deux pistes, il y en aura bientôt trois. Le chapiteau géant, cavalcade avec les animaux dans les rues, etc. Et c'est quelque chose qui est en train de naître et qui, au tournant du XXe siècle, va devenir un véritable phénomène de société. Que ces grands cirques ambulants qui venaient apporter en quelque sorte de la magie et de la fête dans les villes. Ça va inspirer des directeurs de cirques dans tous les États-Unis. Alors c'est les fameux grands cirques à trois pistes, etc. Mais on va avoir des ménageries ambulantes assez vite en Europe également. On appelait ça des ménageries parce qu'on y présentait des numéros. Assez vite, ça devient des cirques au sens propre. Et l'on va, le principe même du cirque d'été ou du cirque d'hiver stable, eh bien on va le promener de ville en ville. Et évidemment, c'est le rêve des enfants à la Pacherie, de voir arriver le cirque.
Bien sûr, parce que c'est beaucoup de magie avec un cirque qui s'installe. Et puis, il y a une ambiance dans un cirque particulière. D'abord, il y a un son extrêmement pointu dans un cirque. Les chanteurs adorent chanter dans un chapiteau.
Oui, il y a une belle acoustique, c'est vrai, c'est vrai.
Il y a une acoustique formidable.
Je réalise à la fin de cette émission que nous n'avons pas répondu aux questions des auditeurs, figurez-vous. Et notamment Hubert se fait l'interprète de pas mal d'autres auditeurs qui disent « Et pourquoi ne parlez-vous pas de la coulrophobie, c'est-à-dire de la peur des clowns ?» Et oui, il y a des personnes qui ont peur des clowns. Alors, si j'avais un mot à dire pour conclure cette émission, c'est un, aller au Festival Mondial du Cirque de demain, et deux, s'il vous plaît, n'ayez pas peur des clowns, ils sont très gentils.